VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, c'est finalement le 4 septembre que débute l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï, région secouée par des violences depuis août 2016. Les détails avec Eddy Isango.
La date a été annoncée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où la CENI, les gouvernements et les conseils nationaux du suivi de l'accord du 31 décembre évaluaient hier les processus électoraux. Corneille Nanga, le président de la CENI, a dans un discours public demandé à la population de participer massivement à l'opération en vue, a-t-il dit, de permettre à la CENI de publier les calendriers électoraux. Le gouvernement a pour sa part rassuré que l'espace du Kasaï central ainsi que les territoires de la Lomami sont désormais sécurisés. Le ministre de l'Intérieur a donc autorisé à la CENI d'y déployer son matériel et son personnel, d'identifier et enrôler sans attendre les électeurs. L'enrôlement dans cette région était jusque-là incertain et constituait une des raisons du report probable des élections devant se tenir avant décembre selon l'accord politique du 31 décembre. Plus de 40 millions et demi de électeurs ont jusque-là été enrôlés dans les 24 autres provinces d'après la CENI. Des membres de la CENI ont été tués et des bureaux vandalisés dans les violences au Kasaï qui ont coûté la vie à au moins 3000 personnes.
Le Rwanda a un nouveau Premier ministre, Edouard Ngirente, une personnalité peu connue. Le président rwandais, Paul Kagame, l'a nommé hier à ce poste au moment où des informations faisaient état de l'arrestation d'une opposante au chef de l'État, Jacques Aristide.
Il s'agit de Diane Shima Rwigara qui a été appréhendée mardi à son domicile avec 4 autres membres de sa famille. C'est du moins ce qu'a dit hier à son frère Aristide Rwigara à Reuters. La police rwandaise a indiqué avoir fouillé la résidence dans le cadre d'une enquête sur la jeune femme de 35 ans pour évasion fiscale et falsification de documents, mais a démenti sur Twitter avoir procédé à des arrestations. Diane Rwigara n'a pas pu se présenter à la présidentielle début août, après avoir été disqualifié par la commission électorale pour avoir falsifié des signatures. Le scrutin a été remporté haut la main par Paul Kagame, qui s'attelle donc à remanier le gouvernement. Plusieurs ministres de longue date pourraient perdre leur poste. Son nouveau Premier ministre, le néophyte Edouard Ngirente, succède à un homme politique confirmé, Anastase Murekezi, du Parti social-démocrate, membre de la coalition au pouvoir, très largement dominée par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Au pouvoir depuis la fin du génocide de 1994, le président Kagame est crédité du spectaculaire développement du pays. Il est accusé toutefois de bafouer la liberté d'expression et de réprimer toute opposition.
Cameroun. Le président camerounais Paul Biya a ordonné hier l'arrêt des poursuites judiciaires contre plusieurs leaders de la minorité anglophone en lutte depuis novembre dernier contre le pouvoir central de Yaoundé et poursuivi pour acte de terrorisme. Mais malgré ce geste de clémence, les anglophones n'en continuent pas moins de réclamer un véritable dialogue. C'est le cas d'Angela Forbin, une activiste anglophone camerounaise vivant dans le Maryland, ici aux États-Unis.
Système qui permet à ce qu'un anglophone ne se sente pas comme un sous-camerounais, mais se sente de la même valeur qu'un francophone. On ne veut pas se sentir victimisé, on ne veut pas devoir traduire des documents soi-même dans une région anglophone qui est administrée, par exemple, sous le système de common law. On ne veut pas se retrouver avec un magistrat qui ne s'exprime même pas en anglais et qui vous oblige à traduire vos dépositions en français avant de les amener chez lui. On ne veut pas qu'un enfant brave qui a de bonnes études, qui a fini le A-level, se retrouve frustré à l'université parce que les cours sont dispensés à 80% en français. Voilà les revendications qui sont fondées. Maintenant, on a remarqué qu'après l'arrestation, il y a eu quelques mesures pour saupoudrer la crise, ce que j'appelle le paracétamol pour guérir un cancer. Ça va calmer les douleurs, mais à la fin, c'est un problème qui va ressortir comme un vrai serpent de mer si le président Biya ne prend pas la mesure. Et pour moi, qu'est-ce que je pense vont être de bonnes mesures? C'est d'abord le temps de dialogue.
Angela Forbin, une activiste anglophone camerounaise résidant aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sera confirmée en décembre. C'est ce qu'a déclaré Marcel Alain de Souza, le président de la Commission de l'Organisation Ouest-Africaine. Selon M. de Souza, les 15 chefs d'État de la CEDEAO ont exprimé de manière souveraine et en toute liberté leur volonté d'inclure le Maroc à la CEDEAO. Niagale Bagayoko, experte sur la question de sécurité en Afrique, relève les défis qui attendent le Maroc dans la sphère ouest-africaine.
Cette intégration impliquera une discontinuité territoriale de l'espace CEDEAO dans la mesure où la Mauritanie a choisi de quitter l'organisation en 2000. Donc le Maroc fera partie d'une organisation sans être directement frontalier de la plupart des pays qui en sont membres. Donc cela constitue un premier élément étonnant. D'autre part, il a été indiqué par la diplomatie marocaine que le Maroc adhérerait à une monnaie commune de l'espace CEDEAO, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, hein, puisque certains, la plupart des États francophones font partie de la zone franc, donc ont pour monnaie le franc CFA, tandis que d'autres, tels le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone, notamment, ont leur propre monnaie. Donc cette idée de monnaie commune, alors que la monnaie du Maroc est le dirham, apparaît également comme assez surprenante. D'autre part, comme je l'indiquais précédemment, ces questions sécuritaires, la zone CEDEAO, notamment en raison de toute l'instabilité qui touche à la fois la zone du Sahel et la zone du Nigeria, du Niger, etc., aux confins de l'Afrique centrale avec la menace de Boko Haram, risque également d'entraîner le Maroc, dans, si ce n'est un engrenage sécuritaire, en tout cas, de le confronter à des menaces auxquelles il n'est pas directement actuellement en prise.
Niangale Bagayoko, expert sur les questions de sécurité en Afrique. Crise migratoire, une industrie du kidnapping et de la torture est en plein essor dans le désert libyen. Et ce sont les migrants d'Afrique transitant par la Libye pour gagner l'Europe qui en sont les victimes, déclare Jean-Guy Vato, chef de la mission de Médecins sans frontières en Libye. Ses explications au micro de Jacques Aristide.
Depuis quelques mois, on a de plus en plus de témoignages de migrants qui sont arrivés en Europe ou sur les bateaux ou dans des centres de détention et qui nous racontent, au-delà du parcours extrêmement difficile de migration qu'ils ont à traverser pour remonter d'Afrique centrale vers les côtes libyennes, en plus de ça, il arrive à certains de se faire kidnapper, torturer par des groupes qui exigent une rançon. Donc c'est un phénomène qui semble nouveau, en tout cas dans son ampleur, on en entend de plus en plus parler.
Quelles en sont donc les conséquences?
Alors, pour ceux que j'ai rencontrés, moi personnellement, ils sont vidés. Cette expérience-là de kidnapping et de torture les a brisés. Physiquement, hein, ce sont des jeunes hommes en général, les migrants. Ils ont 20 à 30 ans, ils sont partis plutôt vigoureux. Et là, après les deux points, encore une fois, à la fois du transit en Libye sous la coupe des trafiquants d'êtres humains et en plus du kidnapping, ils sont dans un très mauvais état physique, malnutrition, anémie, évidemment coups et blessures et brûlures, hein, conséquence de la torture, et ils sont psychologiquement assez faibles. Un certain nombre disent que ils préfèrent rentrer à la maison, ils veulent oublier tout ça, oublier leur rêve d'aller en Europe pour venir travailler en Libye, et qui n'ont aucune envie, c'est de rentrer chez eux.
Cette semaine même s'est tenu à Paris un mini-sommet Europe-Afrique sur les migrants, et les Européens ont parlé d'identifier les réfugiés dès le Niger et le Tchad. Qu'en pensez-vous?
Oui, ben, je pensais que c'était déjà fait, donc c'est en fait une fausse nouveauté. Ça ne correspond pas de toute façon à la crise qu'on voit actuellement en Libye. La plupart des gens ne souhaitent pas obtenir le statut de réfugié politique. Ces gens-là ne seraient pas allés dans une ambassade pour déposer leur dossier. Ils auraient quand même essayé de traverser la Libye puis la Méditerranée. Quant à ceux qui l'auraient fait, tant de chance pour avoir le statut de réfugié politique depuis leur pays d'origine, si jamais leur dossier était refusé, je ne crois pas que ça les empêcherait de tenter leur chance à ce moment-là par les réseaux libaux.
La situation s'est donc détériorée. Que faut-il faire d'après vous?
Déjà, on a une population assez importante, peut-être 200 000 à 300 000 personnes en Libye, sous la coupe des trafiquants d'êtres humains. Il faut essayer de leur porter secours, des organisations comme Médecins sans frontières qui les portent. Mais même si on améliorait finalement l'aide délivrée à cette population-là, ce ne sera pas nécessaire pour vraiment notablement améliorer leur sort. Donc parallèlement, il faut trouver une solution pour que ces gens-là ne restent pas trop longtemps en Libye, soit en les laissant passer finalement, en les laissant fuir l'enfer qui est devenu la Libye pour ces migrants et en les accueillant en Europe pour traiter leur dossier, puis d'ailleurs pour les renvoyer dans leur pays d'origine si l'Europe ne veut pas les accueillir. Mais en tout cas, il faut absolument essayer à la fois d'éviter qu'ils restent trop longtemps en Libye et quand ils y sont, leur porter un maximum de secours.
Jean-Guy Vato, chef de la mission de Médecins sans frontières en Libye. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.